des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie.
Zaz et tous les cris, les SOS.
Actualité culturelle exclusive à la presse, Louis Morissette fonde une maison d'édition. Louis Morissette, éditeur de livres, c'est un article de Nathalie Collard, pourquoi pas? Avec le succès des livres de recettes de Yotam Ottolenghi, dont KO Media, une filiale de KO TV, possède les droits pour le Québec, la boîte de production a décidé de créer sa propre maison d'édition. La progression de KO Media se fait autour du contenu, rappelle Louis Morissette, rencontré dans ses bureaux du Vieux-Montréal. Papier, pas papier, la question n'est pas là. Les gens vont être là si tu leur donnes du contenu de qualité. À propos de la biographie qui paraîtra à l'automne, Louis Morissette précise « C'est une histoire que je voulais lire. Fin du plan stratégique. Je voulais qu'on raconte cette histoire-là. C'est un livre qui n'existait pas. On l'a commandé. Et ce n'est pas Véro », ajoute-t-il en riant. C'est son associée Sophie Banford, directrice générale et éditrice des publications chez K.O. Media, qui veillera aux destinées de K.O. Éditions Inc. Elle arrive tout juste de la Foire du Livre de Londres, où elle a rencontré plusieurs éditeurs étrangers et d'où elle est revenue avec plusieurs idées et au moins un livre qui l'a particulièrement emballée. Nous avons déjà les droits pour les trois premiers livres d'Otto Lenghi et nous sommes en pourparlers pour le prochain. On s'adresse d'abord aux femmes, c'est l'expertise que nous avons développée avec nos magazines. Alors, c'est certain que nos livres vont s'inscrire dans le même esprit. Sophie Benford, directrice générale et éditrice des publications chez K.O. Media. Bien sûr, la synergie est encouragée au sein du groupe K.O., qui est aussi producteur de télévision, de cinéma et de spectacles vivants. Nous encourageons l'intégration verticale, mais cela ne doit pas être un frein quand on pense à un projet, explique Louis Morissette. Par exemple, les filles de Cuisine Futée étaient déjà à la télé et José Di Stasio n'est plus à la télé, donc ce n'est pas une obligation. Mais c'est certain qu'on le considère et avec les livres, il faudra s'attendre à ce que cette possibilité se retrouve dans les contrats. Louis Morissette s'est lancé dans l'édition magazine en 2015 lorsqu'il a repris le magazine Véro, produit jusque-là, par Transcontinental. Est-ce qu'il pensait devenir éditeur un jour? Pas du tout, répond-il sans hésiter. Quand on a commencé l'expérience de Véro, c'était vraiment pour répondre à un besoin qui était bien précis, rendre ma femme heureuse. On voulait contrôler le magazine Véro et en faire quelque chose dont on serait fier sans en faire nécessairement une opération rentable. L'objectif était autour du nom de Véro. Quand Sophie Benford a quitté les éditions Rogers pour se joindre à l'équipe de K.O., il était toutefois clair dans son esprit qu'il y aurait d'autres publications. Aujourd'hui, K.O. Media publie 6 magazines, dont le petit dernier, Di Stasio comme en Italie, sera lancé jeudi. Dès le départ, je voulais faire un magazine avec elle, affirme Sophie Benford. Le magazine porte sa touche, elle a vu à chaque détail, c'est 100% elle. Notre vision du magazine est très claire. On ne veut pas faire un magazine traditionnel. On propose un produit hybride avec très peu de publicité. On fait ce qu'on appelle des « bookzines » avec beaucoup de contenu et les gens sont prêts à payer pour ça. Il n'y a plus de place pour des publications « junk food » sur le marché, dit Louis Morissette. Quant à la stratégie, elle est toujours la même. K.O. Media publie un numéro et attend de voir la réaction. C'est ce que la filiale a fait avec Cuisine Futée, qui a déjà publié 3 numéros et qui cartonne en kiosque. On fait un deuxième numéro pour tous les magazines, note Sophie Benford. Seul le magazine Maman pour la vie a moins bien performé que prévu quand on le compare aux autres titres, mais on va ajuster le tir pour le prochain. K.O. Media s'apprête à lancer un 7e magazine consacré à la beauté, à la mode et au lifestyle, un créneau laissé vide depuis la fermeture de Loulou. C'est un magazine en lien avec le web qui s'adressera aux milléniaux, explique Sophie Benford, qui ne souhaite pas en dévoiler le nom tout de suite. Plus de détails à la fin du mois de mai. Temps de rendez-vous doux, Justin Boulet rendra hommage à son père. Il y a 30 ans cette année, Jerry Boulet lançait l'album Rendez-vous doux, un disque que l'ex-chanteur d'Offenbach a enregistré alors qu'il se savait atteint d'un cancer. Il est mort à peine 2 ans plus tard à l'âge de 44 ans. Pour souligner l'anniversaire de cet opus immensément populaire, le fils de Jerry, Justin Boulet, rendra hommage à son père lors du festival de Montgolfière de Gatineau. Il produira un spectacle mettant en scène de nombreux musiciens et chanteurs invités qui interpréteront les chansons de cet album majeur dont Les yeux du cœur est toujours vivant ainsi que de grands succès d'Offenbach. Les noms des invités de ce concert qui aura lieu le 1er septembre seront dévoilés demain. Coup de théâtre, le sujet de la parité au théâtre prendra une couleur surprenante en 2018-2019 dans la programmation du Rideau Vert. Denise Filiatro annoncera aujourd'hui que les 5 pièces de la saison seront mises en scène par des femmes et que le tout commencera le 25 septembre avec l'œuvre phare de Denise Boucher, « Les fées ont soif ». La production du Rideau Vert n'a rien à voir avec celle présentée à Québec en 2014-2015 qui avait remporté le prix de la critique pour le meilleur spectacle de l'année. C'est Sophie Clément qui dirigera à Montréal les comédiennes Bénédicte Descaries, Caroline Lavigne et Pascal Montreuil. La metteur en scène était de la création de la pièce en 1978 au TNM, en compagnie de Louisette Dussault et de Michel Magny. Je tenais à ce qu'on ouvre la saison avec cette pièce qui a tellement fait parler au Québec, dit Denise Filiatro, directrice artistique du Rideau Vert. C'est mon genre de pièce pour ouvrir une saison. Du Filiatro tout craché. Et ce n'est pas uniquement parce que c'est une femme qui l'a écrite, mais parce que c'est une femme de talent. J'ai hâte de voir comment la nouvelle génération va la recevoir. On a changé en 40 ans. Pas tant que ça, ma chère, répond Denise Boucher. Le mouvement, moi aussi, par exemple. Les gens disent que c'est dépassé, mais quand je regarde Stormy Daniels contre le président américain, je trouve ça fantastique. Je la trouve belle. Ouais, moi, je la trouve un peu girly à mon goût, ajoute Denise Filiatro. Vente d'un tableau de Jacques-Louis David, la ministre Montpetit annonce que le Saint-Jérôme restera au Québec. La ministre de la Culture et des Communications du Québec, Marie Montpetit, a publié hier un avis d'intention de classement pour le tableau Saint-Jérôme, entendant les trompettes du jugement dernier, et elle annonce qu'il restera au Québec. L'intérêt manifesté par le Musée des beaux-arts du Canada pour cette toile du peintre français Jacques-Louis David, appartenant à l'archevêché de Québec, suscite une controverse depuis quelques jours. L'avis d'intention de classement publié hier par le gouvernement québécois met un frein à toute vente de cette œuvre soudainement très convoitée. Le propriétaire de ce bien patrimonial exceptionnel devra en effet donner à la ministre québécoise un avis écrit d'au moins 60 jours avant de le vendre pour que le gouvernement du Québec puisse décider d'exercer ou non son droit de préemption au prix offert par l'acheteur intéressé. Or, la ministre Montpetit a annoncé hier avec fierté que le Saint-Jérôme de Jacques-Louis David restera au Québec. Et de façon plus large, la ministre affirme qu'elle a mandaté le ministère afin de développer une nouvelle stratégie de protection des biens mobiliers à caractère religieux. De son côté, le Musée des beaux-arts du Canada a annoncé plus tôt hier qu'il était maintenant disposé à mettre sur pied des ententes de prêt à long terme du Saint-Jérôme avec des musées du Québec. Une idée que le directeur général Marc Maillé écartait du revers de la main la semaine dernière. En entrevue à Radio-Canada, il soutenait alors qu'un tableau précieux n'est pas comme un enfant qu'un couple séparé se partage une fin de semaine sur deux. Le MBAC, Musée des beaux-arts du Canada, a annoncé récemment qu'il était prêt à vendre un tableau de Chagall de sa collection pour pouvoir acquérir le Saint-Jérôme de David et le garder au pays. Dans une lettre ouverte, le MBAC a soutenu qu'il ne croyait pas qu'une institution québécoise pourrait acquérir le tableau et que pendant ses échanges avec l'archevêché, il avait appris que le Saint-Jérôme avait été offert à des institutions à l'étranger. « Nous avons signalé au propriétaire que nous ferions tout notre possible pour que le tableau reste au Canada et il a accepté de nous laisser davantage de temps pour recueillir les fonds nécessaires », lit-on dans la lettre ouverte du MBAC. Nos démarches n'ont jamais eu pour but de nous conférer un avantage sur les musées du Québec, mais plutôt de donner au Canada les moyens de prévenir la sortie du pays d'une œuvre d'art majeure. Quant à la Tour Eiffel de Marc Chagall, le conseil d'administration du MBAC a réexaminé sa décision, mais procédera comme prévu à sa vente aux enchères le 15 mai, même si cette aliénation avait soulevé bien des critiques dans le milieu muséal canadien. Les pratiques d'aliénation varient d'un grand musée à l'autre, mais il n'est pas rare d'y recourir en Amérique du Nord pour générer des fonds permettant de constituer des collections d'art toujours plus solides et plus pertinentes, a expliqué le MBAC. Les produits de la vente seront ainsi affectés à trois fins importantes. permettre une éventuelle acquisition du Saint-Jérôme de David, établir un filet de sécurité financier pour l'achat d'œuvres menacées de quitter le pays et renforcer la capacité du musée d'acquérir des œuvres d'art d'importance, seul ou en partenariat avec sa fondation.
Parti ce matin, tu siffles en hommage un refrain, encore un peu sourd de la veille, on sait rien ne sera plus pareil. Tu nages dans l'eau de la piscine, défie de motricité fine. Tu sembles incarner le divin, comme si David Hockney t'avait peint. On a parlé toute la nuit avec des phrases, des assorties. J'ai encore tant de choses à te dire. Peut-être aurais-je mieux fait de te fuir. J'aurais voulu cacher mes larmes. Vive la vie, vive les drames. Sais-tu à quel point tu me plais? J'espère qu'on ne se lâchera jamais. Est-ce la chaleur qui m'assomme, ou l'alcool d'hier qui résonne? Devant toi je me sens tout petit, j'ai envie d'avaler la vie. Tu ressembles au prince charmant, dis-moi existes-tu vraiment? Je sais on vient de se rencontrer, accepterais-tu de m'épouser?
Pierre Lapointe, mon prince charmant.
La presse à Toronto attaque au camion Bélier une arrestation qui va servir de référence. C'est un texte de Pierre-André Normandin. Le policier qui a arrêté le suspect dans l'attaque au camion Bélier à Toronto hier a agi dans les règles de l'art, selon l'ancien directeur du service de police de la Ville de Montréal, SPVM, Marc Parent. Le chef de direction au commissionnaire du Québec a accepté de décortiquer l'intervention avec la presse pour permettre de mieux comprendre pourquoi l'agent torontois n'a jamais ouvert le feu alors que l'individu se montrait menaçant. Le face-à-face. Les vidéos captées par des passants permettent de constater que la camionnette blanche, dont le pare-choc est lourdement endommagé, finit par s'immobiliser sur le trottoir. Une voiture de police se gare en parallèle à quelques mètres. Pendant que le chauffeur descend de la camionnette, un policier se tient légèrement accroupi derrière sa voiture de patrouille, tenant le suspect en joue et lui intimant l'ordre de se coucher au sol. Il a une couverture. C'est important parce que tu achètes du temps et une protection. Tu retardes la menace vers toi. C'est un élément tactique très important, observe Marc Parent. En contrôle. Tue-moi, Tire-moi dans la tête. À plusieurs reprises, on entend le suspect crier au policier de le tuer. À quelques reprises, on voit même l'homme descendre sa main droite vers sa ceinture et la remonter rapidement en pointant le policier face à lui d'un objet sombre. Mais l'agent n'ouvre pas le feu. Un des premiers facteurs à considérer, c'est de savoir si le policier craint pour la vie de quelqu'un ou sa propre vie, ce qui l'obligerait à faire feu. On peut en déduire qu'il se sentait en contrôle de la situation et que sa vie n'était pas menacée parce qu'il n'a pas vu d'armes blanches ou d'armes à feu, analyse Marc Parent. Suicide par policier. L'ex-directeur du SPVM voit d'ailleurs dans les cris répétés du suspect invitant le policier à le tuer un indice supplémentaire. Quand il dit « tire-moi », c'est ce qu'on appelle un suicide provoqué par un policier. C'est quelque chose auquel on fait parfois face en Amérique, note M. Parent. Réduire le stress. Après une trentaine de secondes de face-à-face, le policier tente de calmer la situation pour éviter une escalade des tensions. Tout en maintenant le suspect en joue, il prend le temps d'ouvrir la portière de sa voiture de patrouille pour arrêter le cri strident de sa sirène. C'est pour mieux communiquer avec l'individu. Ça peut aussi enlever un élément de stress, poursuit M. Parent. Communication. L'arrêt de la sirène permet en effet aux échanges d'être un peu plus poussés. Le policier continue à donner l'ordre de se coucher, tandis que l'homme tente de nouveau de le convaincre de faire feu. « J'ai une arme dans mes poches », finit par lancer le suspect. La réponse du policier lui permet alors probablement de comprendre que l'agent n'a pas mordu à l'hameçon et qu'il ne compte pas le tuer. « Je m'en fous, couche-toi. » Arme intermédiaire. Le suspect change alors d'approche et commence à avancer vers l'agent de façon menaçante, toujours en le pointant du bras. Le policier recule, maintenant une distance sécuritaire entre le suspect et lui. Il en profite toutefois pour saisir un objet à sa ceinture, probablement son bâton télescopique. Quand un policier déploie son bâton, ça fait un bruit et c'est intimidant. Ça envoie un message. On passe à une autre étape, résume Marc Parent. Ce dernier note que la vue de l'arc électrique d'un pistolet à impulsion peut avoir le même effet. La tactique porte ses fruits parce que l'attitude du suspect change du tout au tout. Il cesse d'avancer, lève ses mains en l'air pour ensuite se coucher au sol où l'agent lui passe les menottes. Force proportionnelle. Pour Marc Parent, nul doute que cette intervention servira de référence dans la formation des policiers. Ce type d'arrestation étant extrêmement délicate. C'est le genre de choses qu'on pratique très tôt dans la formation d'une recrue et qu'on va cibler dans nos mises à jour des policiers. L'agent ne s'est jamais senti menacé parce qu'il a pris les dispositions pour bien se protéger jusqu'à la fin de l'intervention. Il a toujours communiqué avec l'individu pour le raisonner et le faire obtempérer. C'est une intervention qui va servir de référence. Lors d'un point de presse en soirée, le chef de police torontois, Mark Saunders, a d'ailleurs vanté le sang-froid de son policier qui a 6 ans d'expérience. Évasion dans le Journal de Montréal ce printemps à Châteauguay. On retrouve pas moins de 4 sites naturels protégés à Châteauguay, dont le refuge faunique Marguerite Diouville et le centre écologique Fernand Séguin. De belles découvertes nous y attendent. Libre à vous d'explorer par vous-même ou de vous joindre à une activité d'Héritage Saint-Bernard, le gestionnaire des sites, c'est Alain Demers qui signe l'article. Lieu de prédilection de Sophie Thibault, chef d'antenne à TVA-LCN pour la photographie de nature. Le refuge faunique est propice à la capture de belles images. Champs, boisés et marais abritent une faune riche et variée. Au pavillon de l'île, un espace devait d'ailleurs être aménagé ces jours-ci pour la vente d'articles avec les clichés remarquables de la journaliste et artiste, son livre « Dans ma nature », des photos sur acrylique, des cartes de souhaits. Les profits sont destinés au refuge faunique. Pour vous dire à quel point les lieux grouillent de vie, l'équipe du refuge faunique dont Sophie Thibault fait partie, défendra son titre de vainqueur au Grand Défi québécois, au Grand Défi québécoiseau, le samedi 26 mai. L'enjeu? Observer le plus d'espèces d'oiseaux entre le lever et le coucher du soleil. Une journée d'activité est de plus prévue au sujet de la sauvegarde des hirondelles. On ira voir des nichoirs déjà installés et un autre gigantesque pouvant abriter une colonie. Au Centre écologique. Avec son nouveau chalet d'accueil, le Centre écologique Fernand Séguin devient un site naturel plus accessible encore. À faire en tout temps sur les sentiers, attirer les mésanges dans nos mains avec des graines de tournesol. Tous les week-ends de mai se tiendront des ateliers de découverte. On apprendra, entre autres, comment reconnaître grenouilles ou rainettes selon leur chant. L'accès au centre est gratuit. Alors, il y a quelques photos, le nouveau chalet d'accueil au Centre écologique Fernand Séguin, Sophie Thibault avec son appareil photo, un bel oiseau, une hirondelle, aussi, en bref, on peut lire « Sentier, 8 km au refuge faunique et 5 km au Centre écologique ». On nous donne un numéro de téléphone 450-698-3133, 450-698-3133 et une adresse Internet www.ilsaintbernard.com. D'autres idées pour le week-end, de l'escalade en tout temps. À l'ouest du quartier 10-30 à Brossard, Canyon Escalade à la Prairie est doté de 220 voies pour grimper à l'intérieur. Initiation d'une heure avec moniteur, $25 par personne. www.canyonescalade.com. Des sentiers sur pilotis. À Nicolet, au parc écologique de Lens-du-Port, on marche au bord du lac Saint-Pierre grâce à deux sentiers sur pilotis. Le plus long s'étire sur plus de 800 mètres. Pour plus d'informations, tourisme-nicolet-yamaska.com. Et finalement, l'île des Moulins. Le site historique de l'île des Moulins à Terrebonne est traversé de plusieurs petits sentiers. On a une belle vue sur la rivière des Mille-Îles et on croise plein de canards. www.tourismedesmoulins.com. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui dit aussi merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute encore une fois. Et je vous invite à le rester puisque dans un petit moment, j'anime les paractualités. Thank you.